Bonjour ou bonsoir, comme dirait l'ami Florent, qui n'est pas là ce soir. Voilà, Florent va nous manquer ce soir, il est en villégiature dans sa maison secondaire. Donc, c'est Vincent de Groover qui a donc l'honneur et l'avantage, quelle chance pour moi, de gérer, de lancer ce 16e podcast Panenka, podcast de rentrée. Sur l'équipe de France et les deux matchs, donc France-Albanie et Roumanie-France, qui viennent de se dérouler, qualificatifs pour l'Euro 2012, en Pologne et en Ukraine. Et donc, pour parler de ces deux matchs avec moi, Bruno, des Chroniques Bleues, salut Bruno.
Bonsoir.
Valentin, monsieur Valentin de la Magère, mondialement
Salut
connu
Vincent, salut
maintenant.
Bruno.
Renommée internationale,
C'est ça.
je pense, et son compère, son, je sais pas, son mini moi peut-être, ou je sais
Ouais,
pas, voilà.
pourquoi pas? Son
Raphaël,
double sadique,
voilà,
voilà.
son double
Maléfique,
satanique,
son double maléfique, ouais.
voilà, Raphaël. Bon voilà messieurs, on va pouvoir évoquer ces deux matchs. Alors il y a du contenu, mais c'est un petit peu mitigé. On va laisser Bruno qui a fait un très très bon papier statistique et analytique. Dans les chroniques bleues justement, nous parler un peu notamment du bilan sur ces deux matchs et peut-être revenir sur quelques individualités, puisque Laurent Blanc ne veut plus parler des individualités, mais nous on peut, sur ces deux matchs qui n'ont pas forcément donné un contenu extrêmement revigorant, en tous les cas des performances en demi-teinte. Vas-y Bruno, c'était à toi.
Oui. Alors moi, ce que j'ai relevé quand même, c'est le bon niveau général de Lloris dans les cages quand même. Il y avait quelques doutes un petit peu sur les matchs précédents où bon, ses performances étaient moyennes, on dira. Là, il a quand même assuré, même s'il n'a pas été non plus très sollicité. Après, qu'est-ce qu'on peut ressortir? Abidal en défense centrale, bon, même si c'est pas son poste habituel, il s'en est quand même bien sorti avec deux partenaires différents. On peut noter aussi Mvila en milieu de terrain qui a fait une performance correcte. Benzema devant, bon, c'est pas son meilleur niveau non plus, mais enfin il a du moins contre l'Albanie, contre la Roumanie moins, mais contre l'Albanie, bon, il a marqué et puis il a fait une passe décisive. Voilà, bon, ça c'est pour les côtés plus, enfin sachant que c'est pas des gros plus non plus quand même, hein.
Ouais.
Alors les moins, ben alors là il y en aurait beaucoup, on va pas faire le tour, mais sinon demain on y est encore, mais quand même de grosses déceptions. Bon, Nasri qui visiblement est toujours pas à sa place dans cette équipe, comment va ce qu'il fait, Malouda donc à droite qui a servi à rien et qui a pas joué le deuxième match. Les latéraux toujours aussi inquiétants, que ce soit Sagna ou Réveillère à droite et Evra à gauche. Bon, j'ai quand même préféré Rami en défense centrale que Kaboul, qui avait pourtant fait de bons débuts, j'avais trouvé cet été, mais qui
Là,
là est
c'était
passé
prometteur et puis il est passé à côté de son match,
voilà. Bon, alors
malheureusement.
après, peut-être pas le condamner sur ce seul match-là, mais bon, une fois que Mexès sera revenu, je pense qu'on le reverra pas de sitôt. Martin a un peu déçu aussi, j'ai trouvé. Enfin bon, il était quand même pas dans de très bonnes conditions contre la Roumanie, mais je trouve qu'il est resté quand même un petit peu en dedans. Voilà, après, Ribéry, bof, pas terrible non plus, hein. Il a un petit peu plus tenté lors du deuxième match que lors du premier, mais bon, voilà. En règle générale, moi, ce que j'ai dit dans mon article, c'est que je trouve qu'il manque quelqu'un, enfin, ça fait longtemps qu'on le dit, capable de diriger l'équipe sur le terrain, de recadrer les joueurs, de les remotiver, d'impulser un changement de tactique en cours de match. Enfin voilà, on a
Ouais,
l'impression
il faut un gueulard, quoi.
on a l'impression qu'ils se cachent tous, quoi. Voilà. Et ça, c'est quand même. Alors quand le match fonctionne bien, c'est pas grave. Quand on est en difficulté, ça manque. Moi, j'ai trouvé ça vraiment flagrant.
Peut-être un manque de variation aussi au niveau tactique, ou en tous les cas, un manque de solution, plan B. Alors, j'ai vu passer pas mal de fois cette expression-là, effectivement, notamment dans les papiers de Florent. Il n'y a pas de plan B, quoi. Et concrètement, les deux matchs sont assez opposés l'un et l'autre sur le rythme et la manière de jouer de l'adversaire. Évidemment, l'Albanie, c'est pas la Roumanie et vice-versa. Mais il y a peut-être ça aussi en termes de manque. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Valentin.
Bah, je sors les mêmes joueurs que Bruno au final, puisque contre l'Albanie, si on va de la queue à la tête de l'équipe, le meilleur c'est Lloris. Ensuite, au milieu, il y a Yann Mvila et finalement Karim Benzema en pointe. Le reste, c'est pas acheté, mais bon, c'est un match à vide pour l'équipe d'une manière générale. Contre la Roumanie, c'est vrai qu'il y a le terrain qui fait que d'une manière générale, les milieux peuvent pas jouer à la balle, alors qu'on a Martin et Kaba qui sont plutôt habiles à ce niveau-là. Et puis bon, il y a toujours l'énigme Malouda, pourquoi est-ce qu'il reste toujours en équipe de France? Quel
Ouais.
apport il apporte?
Alors, en
Donc.
l'occurrence, oui, on a du mal à saisir l'intérêt, en tous les cas, de le laisser sur le. Alors, réalisé des bonnes performances en club, lui aussi. C'est pas le seul à réaliser des bonnes performances en club. Et quand il arrive en équipe de France, à être un peu transparent, parce que Ribéry, c'est un peu le même problème, je pense. Là, c'est clair que y a peut-être autre chose à proposer sur le côté que Malouda, qui clairement erre un peu comme une âme en peine sur certains matchs. En tout cas, le problème, c'est que ça fait un certain temps, ça c'est clair. Raphaël, ton avis, toi, sur l'ensemble des deux matchs,
Ouais, moi
qu'est-ce
je
que
voulais
t'en retiens?
vraiment insister sur cette espèce de colonne vertébrale qui se dégage en fait de Lloris à Benzema, donc en passant par Mvila. Je pense vraiment que l'avenir de l'équipe de France est là. Les trois se sont affirmés hein, vraiment sur ces deux matchs, pas vraiment sur le deuxième parce que c'était vraiment catastrophique dans tous les secteurs de jeu, mais sur le premier, tu vois qu'Mvila et Benzema, c'est vraiment ils sont super jeunes et c'est peut-être ceux qui apportent le plus à cette équipe de France aujourd'hui. Lloris aussi, même si bon, il se trompe un peu sur le match contre l'Albanie, sur le but, il est rassurant aussi. Puis pour une fois qu'on a un capitaine qui fait un bon match en équipe de France, ça change de Oudiara. Donc,
Pas faux.
tu vois, ça fait du bien. Voilà, après, c'est sûr que le vrai problème pour moi, c'est sur les ailes et dans l'animation du jeu, c'est-à-dire le milieu offensif. Que ce soit Nasri ou Martin, on n'a pas réussi encore à trouver de meneur, quoi, d'orientateur du jeu.
Alors, moi, je voudrais votre avis, parce qu'il y a eu une série de discussions, notamment en interne, Panenka, enfin, entre autres avec Florent, on a pas mal discuté, mais votre avis sur Mvila, justement, bon, je rejoins Raphaël sur le fait de dire que oui, il s'est révélé, c'est pas étonnant vu le potentiel du gars, mais le fait de le voir en 6, en milieu récupérateur, est-ce que c'est pas un non-sens, ou en tous les cas, est-ce que c'est pas justement se tromper? Ce mec-là pourrait peut-être être un peu plus intéressant, placé plus haut sur le terrain. Alors, c'est pas l'avis de Florent, c'est plutôt mon avis à moi. Donc, histoire de lancer un petit peu le débat, Bruno, par exemple, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je pense que ce mec-là aurait le potentiel pour jouer en relayeur avec un costaud derrière. Parce que, et on l'a vu d'ailleurs contre l'Albanie, il est positionné très très haut. Bon, c'est vrai que la défense ne presse pas non plus beaucoup, donc il peut se le permettre. Mais naturellement, il est allé vers l'avant et ça amène un but quand même. Et notamment une qualité de frappe et une vision du jeu qui est, après tout, plutôt intéressante, je trouve. C'est pas un meneur de jeu, mais.
C'est vrai. Alors après, la question, c'est si lui monte d'un cran, qui on met derrière lui? Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas pléthore de candidats. Peut-être Matuidi.
Il y a Diarra, Matuidi, ouais.
Matuidi, peut-être. Le problème, c'est si Mvila monte d'un cran, ça réduit un petit peu les possibilités du côté de l'animation du jeu. Mais oui, pourquoi pas. Mais plutôt, je dirais, dans une configuration un petit peu plus défensive pour des matchs à l'extérieur, peut-être. Des matchs où il faut faire le jeu. Je suis pas très chaud et moi je préfère à ce moment-là que Mvila joue, quitte à ce qu'il joue un peu plus bas, mais avoir des milieux plus créatifs devant lui. Moi j'attends aussi beaucoup, bon, je me fais peut-être un peu des illusions là-dessus, mais le retour de Gourcuff. J'aimerais bien voir ce que ça donnerait Martin Gourcuff au milieu de terrain et puis avec Mvila aussi, quoi, ce trio-là. Voilà. Après, sur une configuration plus défensive, oui, pourquoi pas. Mais effectivement, c'est un joueur qui peut apporter quelque chose en étant un peu plus haut sur le terrain, oui.
Enfin, moi je le vois pas mal, je sais pas ce que Raphaël en pensera parce qu'il connaît un
C'est
petit
un
peu
peu ce qui a
le
été
foot
fait en
anglais.
Bo C'est un peu ce qui a été fait en Bosnie
Ouais.
finalement. Quand on gagne
Oui.
2-0 en Bosnie, il y a Aloudira qui est en sentinelle. Et
Et
devant, t'as
Diaby.
Diaby et Mvila, voilà,
Ouais.
qui ont vraiment apporté physiquement. Mais là, comme dit Bruno, c'est vraiment pour jouer à l'extérieur et quand on peut se permettre de laisser la balle à l'adversaire et pourquoi pas de repartir en contre en perçant, mais quand il faut jouer contre des défenses renforcées, j'ai des doutes sur la capacité d'Amvilla de créer des brèches
Moi, je sais
dans
pas
la
ce que
défense
t'en penses,
adverse.
mais pour moi, il correspond beaucoup à un profil qui est connu en Angleterre, de ce fameux box-to-box,
Ouais,
le mec
c'est
qui
bon.
est capable de prendre la balle très très bas, qui a
C'est
une
vrai qu'il a,
qualité
il a ce
de.
côté athlétique, quoi. Il a ce côté athlétique
Bah, déjà,
capable
il est
de
puissant, enfin,
surpasser en surface, quoi.
il bouge pas forcément, enfin, on le bouge pas forcément facilement, voilà, je vais y arriver, mais il a une qualité de conduite de balle qui est pas inintéressante, une bonne vision du jeu, une bonne frappe. C'est un mec qui, voilà, peut être capable de jouer un peu plus en électron libre, parce que c'est pas non plus l'idée, mais en tous les cas avec un peu plus devant la balle. Et d'ailleurs, c'est étonnant, parce que, enfin, c'est étonnant. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a vu Nasri beaucoup redescendre finalement pour jouer limite en relayeur pour le coup, notamment contre l'Albanie, et Mvilla beaucoup plus se projeter vers l'avant. Et à tel point que justement, je pense que théoriquement, dans la logique des choses, si on prend les postes et les aptitudes des mecs en brut comme ça, intrinsèques, c'est Nasri qui aurait dû se retrouver à l'arrivée de la passe de Benzema. Or, c'est Mvilla qui naturellement est allé se projeter devant, quoi. Donc
Oui,
c'est.
mais voilà. Mais à ce moment-là, tu mettrais Mvilla dans un milieu à 3 avec une sentinelle et deux joueurs devant lui. Et deux joueurs devant la sentinelle, je veux dire.
Oui, t'as
Dont
raison.
Mvilla dans les deux joueurs devant. Le problème, c'est que qui tu mets en 6, je veux dire. Parce que moi, j'ai vu beaucoup jouer Matuidi. Je trouve que pour jouer en 6 comme ça, pas tout seul, mais en 6 seul, comme sentinelle, il se disperse
Il manque
trop.
encore un
Il se
peu
disperse
de.
trop, voilà, il s'égare trop et tu vas pas faire jouer Loudira. Il a déjà montré qu'il était bien en dessous d'Mvilla. Même en 6, donc pour moi, Mvilla c'est surtout le meilleur joueur en 6 en France aujourd'hui. C'est surtout ça, plus que la question de son positionnement. Hein,
Je
c'est
suis
que
du même avis que Raphaël, parce
c'est le
que son
meilleur,
po
c'est le meilleur là.
ouais, il a son positionnement, le meilleur, est sûrement en 6, et il peut se permettre d'apporter le plus sur ses montées, comme on l'a vu contre l'Albanie. Après, de là à revoir son positionnement, je pense pas que ce soit une si bonne solution, parce qu'on n'a pas tellement d'autres possibilités de sentinelle devant la défense, à part lui. Bah oui, à part lui, il y a en gros Diarra. Maintenant, Diarra, c'est un bon match, et puis après, le reste est un peu à volo, quoi. C'est un peu ça le souci. Alors, autre aspect peut-être qui peut être intéressant, parce que finalement, il y a aussi un questionnement par rapport à ça, c'est l'animation offensive. On l'a effleuré avec Malouda et Ribéry. Bon, là, Benzema reste sur deux matchs, on va dire, dans la lignée. En tous les cas, il conforte sa position d'attaquant de pointe, titulaire équipe de France. Il marque un but, fait une passe décisive. Bon, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas les stats sous les yeux. Je voudrais bien avoir les stats de frappe cadrée, ne serait-ce que les frappes cadrées. Je parle même pas des frappes en dehors de la surface ou à distance, mais les frappes cadrées sur l'ensemble des deux matchs, parce que l'Albanie, je pense que, hormis le premier quart d'heure, et on va être gentil, la première mi-temps, le reste, il n'y a quasiment rien.
La fin de match, quand même, elle les tire sur le poteau, quand
Oui,
même. Enfin, tu parles de
voilà.
l'équipe en général ou que
Je
de
parle,
Benzema tout
non, je
seul?
parle de l'équipe en général. Maintenant,
Oui.
je parle de la performance offensive. Donc, il y a Benzema, mais il n'y a pas que lui non plus. On va pas non plus tout lui mettre sur le dos, le pauvre. Mais sur les deux matchs, pas l'impression qu'il y ait énormément de frappes, quoi. Il y a Rami contre la Roumanie qui vient coller une frappe à la 40e minute, qui s'enflamme là, qui donne
La
son corps à la
40e minute
science.
et du 40e mètre du terrain surtout.
Voilà, exactement. Donc je sais pas si est-ce que, enfin, est-ce que c'est rassurant, est-ce que ça se comprend, est-ce que, enfin, en termes d'animation offensive.
Il y a un vrai problème, et ça date pas de Blanc, ça date de Domenech et même d'après 2006 en fait. Il y a un problème de variation dans le jeu de l'équipe de France. C'est trop latéral. Sur les ailes, on est inutile parce que nos latéraux sont incapables de centrer. Et de toute façon, on n'a personne pour mettre la tête, hein, on va pas faire jouer Waro. Il y a un vrai problème de variation dans le jeu. On n'est pas capable de modifier notre façon de jouer, notre attaque, notre plan de jeu. On est incapable. On multiplie les passes en espérant qu'il y ait une brèche qui s'ouvre un moment. Ou que Benzema fasse une différence sur un contrôle orienté, mais on n'est pas capable de varier le jeu, quoi. Nos latéraux sont inutiles dans cette équipe. Je sais pas comment c'est possible d'avoir des latéraux aussi inutiles. Ils ratent tous leurs centres. Alors que Sagna a vraiment progressé depuis quelques années sur les centres, mais
Bah, c'est-à-dire que contre l'Albanie, il peut pas, vu le terrain, de toute manière, centrer, c'est une gageure, quoi. Comme
Oui,
j'ai dû
contre
le
la
mettre
Roumanie,
quelque
oui.
part,
Pas de
contre la
Roumanie, contre la
Roumanie, ouais.
Roumanie.
Vu la pelouse, comme j'ai dit l'autre fois, la pelouse faisait descendre toute seule, en fait. Elle était mauvaise,
Ouais.
quoi. C'est vrai que dans l'animation, il y a aussi peut-être un problème de positionnement de certains ou d'engagement d'autres. Je sais pas, Bruno, ce que t'en penses, toi. Est-ce que pour toi, c'est compréhensible ou pas qu'une attaque qui tente pas? C'est un problème de confiance, un problème de positionnement de joueurs?
Moi, je pense que le fait que Benzema soit tout seul devant, c'est pas une bonne chose parce que Si vous vous souvenez ce qui s'était passé contre le Chili, qui avait quand même été un match, bon, c'était un match amical du mois d'août, hein, mais qui était très offensif, où ça jouait beaucoup devant, où il y avait beaucoup d'animation, y avait des combinaisons, notamment entre Benzema et Rémi, c'est-à-dire Benzema qui se déportait sur l'aile et Rémi qui repiquait dans l'axe, et ça créait de la variété, ça créait du jeu. Mais pour ça, il faudrait peut-être laisser tomber
Le 4-3-3.
Voilà, le 4-3-3 qui est pas ce qui est un faux
Car le
4-3-3,
4-3-1, ouais,
voilà.
4-2-3-1, ouais, voilà, ouais.
Voilà. Et peut-être revenir à un 4-4-2, et moi, alors c'est peut-être une bêtise, je ne sais pas, mais voir peut-être Gamero et Benzema ensemble, avec Benzema qui tournerait autour de Gamero, ça pourrait être intéressant à voir, et ça apporterait quand même de la variété, parce que là, Benzema tout seul en pointe, moi, ça me fait penser un petit peu à la position qu'avait Henry en 2006 à la Coupe du Monde, où, bon, ça jouait évidemment bien mieux que là, mais niveau offensif, c'était quand même pas terrible non plus, hein, une équipe très solide derrière, mais il n'y avait pas 1 million d'occasions par match, et Henry, il était complètement isolé devant, il était souvent hors jeu, il touchait très peu de ballons, enfin, voilà. Et là, j'ai l'impression qu'avec Benzema aujourd'hui, on se retrouve un petit peu dans ce schéma-là, une espèce d'entonnoir, quoi. Et comme ça a été dit tout à l'heure, il n'y a pas de latéraux qui sont capables de déborder, de centrer proprement, et il n'y a pas suffisamment de variété devant, oui, ça, c'est évident.
Ouais, le problème, c'est que si tu enlèves déjà le 10, ce qui impliquerait d'enlever le 10 si tu joues à 2 en attaque, déjà que le ballon n'arrive pas jusqu'à la surface adverse, comment on fait après? Ce que je voudrais voir, c'est un 10 qui soit capable de combiner ou même de former un 4-4-2 offensivement. Moi, je pense qu'un Gourcuff, quand il jouait avec Chamakh, ça ressemblait un peu à ça, quoi.
Parce que
Il était
Gourcuff,
capable de
naturellement, il est capable
combiner.
de se placer
Voilà.
comme il faut dans un système de 4-3-3, c'est-à-dire à 18-20 mètres des buts adverses et
Voilà.
en
Et ça,
dégager
Nasri
du
sait pas le
marquage.
faire. Nasri sait pas le faire, par exemple, ça.
Je ne sais pas qui ne sache pas le faire, c'est pas ça, foncièrement, c'est pas pour le défendre hein, maintenant, c'est plus
Non,
trop
mais
la peine, mais
il porte trop, quoi.
c'est surtout que sur les deux matchs, il n'y va pas. Et c'est pour ça, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vois un Mvila qui lui est capable de faire ça, c'est-à-dire qu'il est venu se mettre à l'entrée de la surface, là où il y a l'espace, parce que Bruno, c'est pas toi que je vais l'apprendre, tu connais l'histoire, mais enfin, c'est l'espace qui commande, quoi. Et que concrètement, Mvila, lui, il est allé se mettre dans l'espace, et le ballon, une fois que tu le mets dans l'espace, le joueur, s'il est bien placé, voilà. Alors après, c'est un peu dommage de revenir à des fondamentaux sur des mecs qui sont censés être des professionnels et des internationaux, mais quand tu vois jouer Ribéry, t'as pas l'impression qu'il ait compris cet aspect-là, quoi. Enfin, c'est un peu dommage, c'est un peu extrême, hein, je donne pas des leçons, mais moi, ça me choque. Voilà.
Je te rejoins plutôt sur cet avis, Vincent, parce que finalement, le problème Ribéry, c'est un faux problème. Enfin, c'est plutôt un problème d'animation et de jeu des milieux, parce que Benzema marque son but tout seul, il fait le travail tout seul contre l'Albanie. C'est lui qui fixe les défenseurs et qui a pu enchaîner sa frappe. Je pense que c'est plutôt la manière de faire le décalage ou de trouver l'animation dans l'entrejeu plutôt que vraiment avoir deux attaquants ou une pointe ou que fait la pointe. C'est vraiment, pour moi, c'est l'enjeu principal et le milieu du terrain.
Oui, là de toute façon, c'est certain qu'il y a un manque par rapport à ça, ou en tous les cas, il y a une solution qui est peut-être pas encore trouvée. Je sais pas, alors on va parler du retour de Gourcuff. S'il revient bien là dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, ça pourrait peut-être être intéressant. Défensivement, on sait que c'est du temporaire puisque Mexès doit revenir et que de toute manière, c'est le titulaire qui est quasi indiscutable. Alors, à côté de lui,
Ce sera Abidal ou Rami, c'est
Est-ce
ça?
que
Ah, ce
voilà,
sera Rami, Abidal passera à gauche sûrement.
Oui.
Voilà, performance des
Probable,
bras sont
ouais.
pas
Rami,
enthousiasmantes.
c'est vrai qu'il a fait un match très bizarre contre la Roumanie. Il fait peur parfois parce qu'il prend des risques inconsidérés, quoi. Il est un peu inconscient, mais bon. Après, il tente des gestes techniques et il est réussi. Alors, tant qu'il est réussi, ça va. Le jour où il va perdre un ballon à 30 mètres dans l'axe en faisant une roulette, là, comme il a fait l'autre soir, on va lui en parler longtemps, quoi.
Je pense que ça correspond aussi à une demande, je ne sais pas si certains se souviennent ou pas, mais tu as certains matchs, y compris dans l'histoire, même en 98, même certains matchs voilà, où tu as un des deux centraux qui venait apporter le surnom. À l'époque, c'était Blanc. C'est comme ça qu'on
Eh
gagne
oui.
contre le Paraguay.
Eh oui.
Et malgré que cette fois-là, De Saillies en défense lui hurlait dessus de
Eh
redescendre, de
oui.
revenir se placer, il l'a pas écouté, il a fait ce qu'il pensait être bien, il est allé se mettre là où il fallait, et il a marqué contre le Paraguay. Donc, après, je pense que Rami, ça tient un petit peu à ça. Peut-être que Blanc, justement, a aussi des consignes par rapport à ça. Dire, bon, voilà,
Peut-être,
de temps en
oui.
temps, va apporter le surnombre quand tu sens que le problème, c'est que, encore une fois, contre la Roumanie, sur une pelouse comme ça, Déjà, pour un dribbleur comme un Martin ou un Nasri, c'est super compliqué en 1 contre 1 d'arriver à éliminer l'adversaire. Pauvre Rami, qui est un très bon joueur de foot, mais qui n'est pas un dribbleur, tu ne l'envoies pas au casse-pipe en lui disant vas-y, amuse-toi à porter le surnombre et tu feras attention au mode
C'est
de
vrai.
terre.
C'est vrai.
Après, voilà, là aussi, est-ce que tactiquement, il n'y a pas des choses à revoir ou peut-être à faire différemment, quoi.
C'est pour ça que le retour de Mexed va être important, parce que dans la relance, il est quand même, il
Ouais.
s'inscrit quand même un rôle assez rare en France, quoi. Enfin, un type de joueur assez rare en France. Je
Et
pense que
il est bon
c'est le.
devant aussi, hein. Enfin,
Voilà, c'est ça,
quand il se
ouais.
projette
De
vers
la
l'avant,
tête,
il est
ouais, et
bon.
même ailleurs. Et on en revient aussi à la méthode pour tirer les corners, là, les
Oh
corners à la
là
rémoise.
là. Ça t'a choqué, c'est les corners à la
Ouais, et ça me
rémeuse.
faisait rire parce que tout à l'heure en off, on est allé relire des articles sur le France-Luxembourg de mars, enfin Luxembourg-France de mars,
Ouais, c'est ça.
et déjà ils avaient commencé à tirer les corners à la rémoise. Donc
Ouais. Et
c'est
surtout
clairement une
quand on les
consigne,
tire
mais.
systématiquement comme ça. À la
Oui, mais
limite, si on varie les coups, bon, ça
voilà,
peut le
ouais.
faire. Mais déjà, le terrain n'est pas bon, donc il vaut mieux
Ouais,
lever
voilà,
la balle, après, il
exactement.
me
C'est
semble.
inutile, ouais, tout à
Et
fait.
puis, on ne tire pas trois corners successivement de la même façon. Enfin, je veux dire, les Roumains, sur les derniers corners, ils étaient tranquilles, quoi. Ils savaient que, de toute façon,
On
on
n'a
allait
pas eu
les
ce point.
jouer en passe courte et qu'on allait se retrouver dans le rond central, quoi. C'est
On n'a
incroyable.
pas eu ce point, on a eu une bonne dizaine, je pense, à tirer comme ça.
C'est pas comme si on n'avait pas de
Ah
frappeurs,
oui.
quoi. C'est aussi ça.
Oui.
On a quand même des joueurs qui sont
Martin,
capables.
ouais.
Voilà.
Bien sûr. Hein.
Et moi, ce qui m'a du coup, à contrario, choqué aussi, c'est le manque de corner au deuxième poteau. Voilà, on revient sur la variation un petit peu. Deuxième poteau, c'est quand même. C'est souvent sur ces corners-là qu'il y a des situations dangereuses. Souvent frappé au deuxième poteau, que ce soit dans le match d'équipe de France, voilà, la plupart du temps, dans le match de foot. Mais là, t'as l'impression que non, c'est pas. Ils veulent peut-être rassurer et garder la balle, je sais pas, il y a peut-être ce sentiment-là.
Oui, ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à une équipe qui mène au score à 3 minutes de la fin, qui veut pas perdre le ballon et qui veut faire tourner, quoi. Mais sauf que là, ça aurait été important de marquer à ce moment-là, quoi. Puis de toute façon, un corner, c'est une occasion de but, enfin, il me semble, hein.
Théoriquement, oui, surtout avec,
Voilà.
encore une fois, les frappeurs qu'on a, et théoriquement les joueurs, parce que quand sur un
Rami
corner,
Abidal qui monte, ouais.
voilà. Moi, j'aurais bien voulu qu'on voit. Bon, alors c'est vrai qu'il a préféré mettre Kaboul sur le premier match, qui passe un peu au travers, mais qui restait sur des bonnes performances. J'aurais bien aimé voir Koscielny, parce que dans cet aspect-là, je pense que lui aussi, un petit peu comme Mexès, même s'il n'a pas encore, c'est toute proportion gardée, il n'a pas encore le niveau d'un Mexès, mais en tous les cas, il est un peu dans le même style, capable, voilà,
Dans la
d'apporter le
relance,
surnombre
ouais,
très
dans la
rapidement, de se
relance, ouais.
projeter vers l'avant, puis une bonne lecture du jeu, et puis pas mauvais de la tête. Maintenant, bon, voilà, ça viendra peut-être après. Je pense que les performances de Kaboul ont un peu compromis, un peu modifié l'ordre des choses. Il y a toujours Sako qui n'est pas loin. Je sais, Raphaël, ne t'inquiète
Ouais.
pas.
Ouais, surtout qu'il est quand même assez loin maintenant depuis
Ouais,
quelques
ouais, ouais. Oui,
semaines.
là, c'est un peu inquiétant d'ailleurs. Le fait que la défense centrale, il y a peu de solutions de remplacement quand même.
Finalement, ouais, on croyait avoir un gros réservoir, et
Hein.
puis
Ouais,
mais que ça
ouais.
sera mieux, il devient presque indispensable comme charnière.
Ouais, mais moi,
Voilà.
enfin, je condamnerais pas Sako, comme je condamne pas
Non,
Koscielny,
mais
je
bien
condamnerais
sûr.
pas Sako
Non,
non
pas être
plus.
du temps, tout le temps.
Surtout si Paris fait une bonne saison, je pense que Sako,
Oui.
surtout avec,
Non, mais à l'horizon 2012, on n'aura pas.
ça va venir vite. Mais bon, là, Paris vient de recruter un défenseur central de qualité avec
Lugano.
Lugano, merci, qui est un excellent joueur. Je pense que certains d'entre vous ont dû voir la Copa América. Voilà,
Oui.
c'est bon. Je pense qu'à côté d'un mec comme ça. Ça peut être intéressant pour Sako. Bon, après, voilà, faut pas le condamner. Il y a des solutions. Maintenant, il est clair que Mexès Rami, ça reste, à mon sens, la défense centrale
Oui.
Non, mais surtout qu'Abidal a rassuré sur ses derniers matchs, mais on sait qu'il est toujours capable d'un saut de concentration, Abidal. Je veux dire,
Ouais, bon,
il nous a
Abidal.
assez traumatisés en défense centrale
Ouais, mais il peut
pour pas le
dépanner.
réclamer.
On sait qu'il peut dépanner. Maintenant, c'est vrai que c'est plus intéressant de l'avoir côté gauche. Surtout, voilà, bon, après, Evra, je pense que là, va falloir se
C'est
faire une
d'accord.
raison. Clichy, finalement, avait pas fait un mauvais match l'autre fois, mais c'était un amical. C'est contre le Chili, je crois bien,
Oui,
ouais, c'était contre le Chili, ouais.
faire un mauvais match, mais enfin, c'est pas encore l'assurance tout risque. C'est vrai qu'Abidal semble être quand même le titulaire au poste. Après, à droite, bon, moi j'ai une inclinaison pour Sagna, mais je suis pas totalement objectif sur ce point. Je pense que défensivement, c'est nettement meilleur qu'un Ravière. Après, il est vrai qu'offensivement, Sagna, notamment au niveau de sa qualité de centre, voilà, c'est pas ça, c'est pas là-dessus qui va marquer des points. C'est quand
Il
même
y aurait
embêtant.
Debuffy aussi, non? À un moment donné, on parlait un petit peu de Debuffy, mais il joue quoi, Debuffy? Il joue à droite ou à gauche à
Il joue
Lille?
latéral droit, ouais,
À
latéral droit.
droite. Ouais, il joue à droite,
Et
non, mais
eux
sinon,
aussi,
il y a le Parisien, il y a Jallet, hein, qui pourrait, à mon sens, prétendre aussi
J'allais
à une
aussi, question
place.
placement, défensivement, c'est pas toujours très très rassurant.
Ouais, mais c'est un joueur qui va vite aussi, qui a l'égalité de vitesse.
Mais Sagna, tu vois, c'est quelque chose qui est rassurant quand même. C'est quelque chose de solide. Je pense qu'il faut lui faire confiance. Après, il faudrait peut-être changer parfois les ailiers. Je veux dire, quand je vois Menez en tribune, Menez, il se fait siffler, justement d'ailleurs, par le public, mais contre des défenseurs français comme la Roumanie, son accélération, son dribble, c'est indispensable pour moi. C'est, je veux dire.
Bah, là, c'est vrai aussi. Alors, je vais vous faire réagir là-dessus. Raphaël en parle, on s'en était parlé en off, mais Gamero, Menez dans les tribunes, c'est-à-dire qu'on se coupe de deux solutions, et notamment une dans l'axe pour remplacer Benzema. Je sais pas ce que vous en pensez, Bruno. Ça t'a semblé logique? Ça t'a paru...
Alors moi, ce que j'ai pas compris déjà, c'est que dans la liste initiale, donc il y avait Ouaro. Ouaro est blessé, il est forfait, il n'est pas remplacé. Donc déjà, curieux. Ça veut dire, soit il avait été pris et de toute façon il servait à rien. Donc comme il sert à rien, s'il n'y est pas, on le remplace pas. C'est pas très flatteur pour lui. Mais partir sur deux matchs à l'extérieur qu'on était censé aller gagner avec trois attaquants de pointe et encore sur les trois en comptant Rémi qui est quand même pas un spécialiste de genre, ça fait pas lourd quoi. Et effectivement, se passer d'un des deux et qui en plus marque beaucoup de buts en ce moment sur le deuxième match et le mettre en tribune, là j'avoue que non, j'ai pas compris.
Je suis d'accord avec toi, Valentin.
Ça peut se comprendre peut-être. Là, peut-être que Blanc prévoyait justement de lui de resserrer le jeu si jamais la Roumanie commençait à nous pousser dans nos retranchements, mais c'était pas le cas.
On ouvrirait le score rapidement.
Voilà, peut-être que Laurent Blanc voyait carrément autre chose, mais bon, c'est clair que ça explique. Enfin, par rapport au match qu'on a eu, c'est carrément paradoxal, mais peut-être que Blanc voyait autre chose.
Raphaël.
Pour moi, dans tous les cas, il s'est trompé. Je veux dire, Gamero, il signe au PSG, il prend 3 buts en 4 matchs.
Il est en confiance, oui, ça c'est certain.
Mais, je dis, comment tu peux ne pas le mettre rien que sur le banc, je veux dire, même pour faire figuration, mais pour se dire, il y a quand même un mec derrière qui est capable de remplacer, même si Benzema se blesse. Parce que Rémi dans l'axe, face à une équipe comme ça où il y a 3 défenseurs, presque 3 défenseurs centraux, tellement les milieux défensifs sont bas, je vois pas ce qu'il peut faire.
Enfin, au-delà de ça, même sans parler de blessure, parce qu'on va pas souhaiter le malheur, mais enfin, c'est vrai que c'est dommage de se passer d'une solution, surtout quand on voit le match de Benzema, qui a pas été le plus mauvais, enfin, qui a pas non plus été tranchant, et bon, qui a pas fait forcément toujours les bons choix sur le match de la Roumanie, contre l'Albanie, il a fait son boulot, ça c'est pas un souci, mais contre la Roumanie, bon, il rate une occasion, en toute fin de match, il a une occasion qui est exploitable, il préfère dribbler sur un terrain comme ça, plutôt que de frapper en première intention. Ça peut peut-être apporter autre chose. Bon, enfin, en tous les cas, tu te prives d'une solution de remplacement.
Non, mais surtout que il y a que 7 places sur la liste, ou 5, je ne sais plus, sur la liste des remplaçants.
7, oui.
Ça pourrait être justifiable de laisser Gamero en tribune s'il a vraiment tous ces changements dans la tête, sauf qu'il n'en fait que 2 dans le match. Il y en a un qui n'est pas fait. Et le match aller aussi, il fait quoi? Il fait un changement au match aller. Enfin, au match aller contre l'Albanie, je veux dire.
Oui.
Donc, comment? Pourquoi?
C'est étonnant. Alors, pour terminer, messieurs, parce qu'on va tout doucement, on va arriver sur la fin, là, mais on va peut-être se parler des prochains rendez-vous de l'équipe de France. Et notamment une configuration, on a parlé aussi en off avec Bruno, ça nous rappelle des souvenirs. On est des anciens, on est des grognards, nous, donc voilà. Configuration où on va jouer à la fois l'Albanie et la Bosnie. Certes en France, au Stade de France, mais on se retrouve dans une configuration, alors je touche du bois, voilà, mais qui nous rappelle étrangement, mon cher Bruno, une certaine année 1993.
Oui.
Alors, rappelle juste rapidement pour les plus jeunes d'entre nous qui écoutent ce podcast et qui ne se souviennent pas de cette époque bénie, voilà. Ce qui s'était passé, vas-y.
Eh bien, ce qui s'était passé, c'est que la France, en l'automne 93, n'était pas mal placé dans son groupe pour la Coupe du Monde 94 et avait besoin d'un point sur les deux derniers matchs. Donc, un nul au premier match aurait suffi. Donc, on reçoit Israël, qu'on avait battu quand même 4-0 à l'extérieur à l'aller, et qui venait quasiment faire du tourisme, quoi, rien d'autre. Et ensuite, il restait un match contre la Bulgarie, bon, qui s'annonçait quand même plus difficile, mais qui n'était pas décisif au départ. Et contre Israël, l'équipe de France laisse filer le match, il pleut, enfin, les conditions sont très mauvaises. Et Israël revient deux fois au score, hein, à 1-1 puis à 2-2, et en toute fin de match marque un troisième but, donc qui rend le dernier match contre la Bulgarie décisif. Et ce dernier match contre la Bulgarie, bon, il est pris complètement à l'envers. Il y a un but qui est marqué assez rapidement par Cantona, puis les Bulgares égalisent. Donc comme on a ce fameux point qui est qualificatif, on est encore
On
qualifié. Et
défend. Et puis il y a cette fameuse histoire avec Ginola et le
voilà,
centre de
oui, mais bon,
Ginola
après
qui.
Ginola, oui, bon, après il a servi un petit peu de bouc
Il
émissaire, mais
servait de
enfin, on
bouc
prend un
émissaire.
but à la dernière minute et puis on est éliminé. Donc je disais, oui, effectivement, ça. Bon, je ne pense pas qu'on en arrivera là, j'espère
Non,
pas, mais
j'espère pas non plus.
le niveau des adversaires est à peu près le même, c'est-à-dire qu'on peut considérer que l'Albanie aujourd'hui est à peu près. Serait même a priori un petit peu meilleur qu'Israël en 93, et que la Bosnie, qui de toute façon, je pense, chercher la deuxième place du groupe, l'a quasiment assurée, puisqu'il lui reste plus qu'à battre le Luxembourg, ne sera pas rejointe de toute façon par la Roumanie. Donc, viser la deuxième place, l'a obtenue, et va arriver en octobre au Stade de France avec strictement aucune pression, rien à perdre, et éventuellement la première place en cas de victoire. Donc, toute la pression sera sur nous. Un match nul contre la Bosnie pourrait suffire, mais je suis pas sûr que, vu ce que l'équipe de France a montré récemment, elle soit capable de tenir un match nul sereinement, on dira. Donc attention, alors bon, a priori la
Alors,
qualification est quand même largement à notre portée, mais attention quand même.
on rappellera que Blanc était de l'équipe de France de 1993 et de
Oui, et
cette fameuse série qu'il a failli arrêter sa carrière en bleu.
exactement, oui. Oui,
Il
c'est
a failli
Jacquet qui l'a
arrêter sa carrière.
rattrapé,
Voilà.
qui l'a
Jacquet l'a
rattrapé pour le
rattrapé in
col après.
extremis. Voilà.
Voilà.
Il voulait arrêter sa carrière en bleu à
Et
l'époque et
il
qu'il y
avait
avait à
28
l'époque
ans. Ouais.
aussi déjà Deschamps,
Il y avait Deschamps, il
Lizarazu.
y avait De Sailly, il y avait Lama dans les
Il n'y avait
cages.
pas
Enfin,
encore Lizarazu, non, j'ai dit des bêtises. Voilà, mais il y avait Lama dans les cages, il y avait De Sailly sur le terrain
il y
aussi.
avait. Oui, Djorkaeff a commencé juste après. Il n'y était pas encore, mais il n'était pas loin. Enfin, il y avait quand même pas mal de. Enfin, une partie de. Il y avait une bonne partie de l'ossature
Voilà.
des champions du monde, quoi. Donc,
Et
c'était pas non plus une mauvaise équipe
c'était
à
pas
cette
non plus une
époque-là.
mauvaise équipe, mais l'aspect psychologique et le fait que Blanc ait connu ça aussi, ça va peut-être apporter sur la préparation de ces deux matchs à venir, sans bon, peut-être qu'il va
Oui,
pas
oui.
faire le lien avec ce scénario-là, mais je pense quand même que ça trotte dans un coin de sa tête. En tous les cas, le fait
Sûrement.
de dire attention, il faut de toute façon déjà assurer contre l'Albanie avec une victoire. Voilà. Donc messieurs, Valentin peut-être en premier, ça vous semble réalisable quand même de faire un point, enfin au moins une victoire sur ces deux matchs-là, quand même.
Oui, facilement, je dirais, parce qu'il faut pas oublier non plus qu'on a eu quand même deux matchs à l'extérieur et que sur les stades de Brno, c'est la victoire et le match nul, c'est souvent la configuration qui ressort le plus souvent. Les deux matchs au domicile, les 6 points sont prenables. Si c'est pas le cas, ce seront les quatre. Mais oui, il n'y a pas de problème. Après, une question que je me pose, c'est l'accueil au Stade de France. Comment ça va se passer contre l'Albanie? Est-ce que le public sera derrière les bleus ou si la prestation des bleus déçoit, est-ce que le public sera prêt à
C'est le public du
renchérir?
Stade de France, donc ce sera forcément mauvais, mais
Oui.
Ça tout dépendra peut-être du premier match qui, si
Non, mais
jamais il y a le jeu, le public pourra suivre pour le deuxième et qui sera sûrement décisif.
Non,
Donc
mais si l'équipe de France mène pas à la mi-temps, il va y avoir des sifflets et puis
ouais,
voilà.
ça c'est sûr, ouais, ça c'est sûr, mais ça dépendra donc du jeu produit à domicile.
Non, mais bon, contre l'Albanie, il faut assurer vraiment, il faut claquer une belle victoire, et puis comme ça, on arrivera contre la Bosnie.
Alors,
Je dirais pas en confiance, mais avec quelques certitudes, parce que là, on les a presque toutes perdues sur cette semaine d'équipe de France. Donc,
l'Albanie qui a été battue par le Luxembourg, quand même.
voilà,
Voilà.
l'ogre albanais qui nous avait fait tant souffrir.
Voilà, bon, moi, à mon sens, je pense que l'Albanie ne devrait pas être un obstacle conséquent en plus au Stade de France. Faut quand même pas exagérer. Je crains par contre, et Bruno alimente mes craintes, mais c'est vrai que. Une équipe de Bosnie qui est quand même solide derrière, qui est capable devant aussi de faire très mal, notamment avec un Dzeko.
Ouais,
Alors
voilà.
Pjanic a pas joué contre Luxembourg, je sais pas pourquoi, il était suspendu ou blessé, enfin j'ai pas.
Peut-être blessé, je sais pas, l'histoire de son transfert à Rome, ou peut-être
Ouais,
que.
enfin, il n'y était pas, mais.
Enfin, en l'occurrence,
Mais
cette
pas contre
équipe-là,
le Luxembourg.
moi.
Oui, contre la Biélorussie, pas
Contre
contre
la
le Luxembourg.
Biélorussie, ouais. Cette équipe-là, moi, m'inquiète et est capable de. Je
Mais,
pense,
ouais.
même dans se qualifiant, même pendant l'Euro, va poser des problèmes à pas mal d'équipes. Donc, autant assurer contre l'Albanie, parce que je suis pas certain qu'on ait un match facile gagné d'avance. Surtout avec une équipe de Bosnie qui, oui, comme disait Bruno, va arriver à l'aise, sans pression particulière. Donc, à vrai
Surtout qu'il
dire.
faut pas trop se référer au match aller en plus, parce qu'à l'époque, bon, déjà c'était à la Bosnie de faire le jeu, donc on s'était bien senti. Et puis à l'époque, surtout, Dzeko était au fond
N'était
du
pas là.
trou, alors que là, c'est.
On l'avait pas vu quasiment du match.
Voilà, alors que cette fois-ci, je crains qu'il soit au top.
Et puis au match aller, en plus, on avait d'une part Mexès était encore là, je crois. Hein,
Oui,
si je
oui.
dis pas de bêtises. Et
Puis c'était un bon match de Malouda, ce qui fait que c'était vraiment
Oui.
un joueur exceptionnel quand même.
C'était d'ailleurs son seul bon match depuis longtemps, voilà. Pauvre McDonald, on n'en a pas trop parlé parce qu'on va pas tirer sur l'ambulance, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de le voir jouer en équipe de France. On n'a pas trop parlé de Ribéry non plus, on s'en garde un peu sous le pied pour notre podcast. On va lui laisser peut-être encore une chance de montrer un petit peu ce qu'il peut apporter. Moi, je ferais juste remarquer qu'une des rares fois où il est passé à droite contre la Roumanie, il a été dangereux quasi immédiatement. Je sais pas si c'est... Voilà, mais enfin, ça laisse quand même rêveur
sur
l'aspect « je veux jouer qu'à gauche ». Bon, enfin, bref. Voilà, messieurs, je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur l'ensemble de ces matchs-là. Est-ce que vous avez peut-être des choses à rajouter, Bruno ?
Non, je dirais pour finir sur la Bosnie, c'était quand même le meilleur match qu'on ait fait depuis les débuts de Laurent Blanc. C'était une équipe qui avait été beaucoup plus joueuse, puisque je me souviens du match aller. Le contexte du match aller, c'était juste après la défaite contre la Biélorussie. Mmh. Et on y allait clairement pour jouer le 0-0. D'ailleurs, Blanc le disait, hein, il disait on s'en fout de la manière, il faut au moins obtenir un match nul. Résultat, on a plutôt bien joué, on a gagné. Donc, ma foi, pourquoi pas, on peut peut-être espérer que ce sera la même configuration. Et puis, voilà, on récupère, d'ici là, on devrait récupérer Mexès, on devrait récupérer Gourcuff. Donc, je ne pense pas qu'on verra la même équipe que celle qu'on a vue là début septembre.
Ouais. Valentin, au bout de la fin ?
Je ne suis pas spécialement inquiet. J'aimerais juste qu'on sorte des torts, comme on a vu par exemple avec les corners larrémois. C'est le fait que les joueurs se fixent, ont une fixette sur quelque chose, tentent absolument de le faire et n'ont pas la réflexion, ne réfléchissent pas, n'ont pas une réflexion de groupe comme quoi ils pourraient adopter d'autres stratégies. Avoir des joueurs qui prennent des initiatives personnellement, il n'y en a pas. Donc j'espère c'est juste vrai qu'on arrivera à sortir de ce système qui pue quand même. Donc, je ne suis pas spécialement inquiet, mais j'espère juste qu'il n'y aura pas cette obsession du corner larrémois et voilà.
Un peu plus de variation, quoi.
Ouais, de variation et d'initiative.
Comme dit Val, j'espère que les joueurs seront moins inhibés et qu'on arrivera à sourire devant une action de l'équipe de France.
On va garder espoir. Bon, messieurs, je vous remercie. Donc, on rappelle, c'était le 16e podcast Panenka. On salue les lecteurs de Panenka et on salue Florent qui doit nous écouter là. A posteriori dans sa villégiature, on dira pas où parce que sinon problème avec les paparazzi, etc.
Plein de groupies et plein de groupies.
Voilà, c'est pas possible. Son agent nous a clairement expliqué qu'il fallait pas donner l'adresse.
Qui d'ailleurs n'est pas Bernès, hein, on sait jamais.
Non, surtout pas. Surtout pas. Non, attends, imagine Florent avec le même agent que Laurent Blanc et Franck Ribéry, c'est pas possible ça.
Ce podcast n'existerait pas.
Voilà, exactement. Donc, messieurs, je vous remercie. Donc, on rappelle Bruno, des Chroniques Bleues, bien sûr. Hein, si vous voulez tout savoir sur l'équipe de France depuis tout le temps en fait, hein, parce que là ça remonte très loin. Il y a tout ce qu'il faut. C'est un concurrent de Wikipédia, Bruno, en fait. Il va faire couler Wikipédia. Donc, je vous le recommande. Et Valentin et Raphaël, la Magère, quoi dire, la Magère, voilà. Non, n'hésitez pas à faire un petit tour.
Il n'y a plus rien à dire là.
Voilà, tout est dit. C'est l'actu décalé et même recalé sur le foot. Donc n'hésitez pas non plus à y aller. Voilà, c'était c'est Vincent. Ça. Moi, c'est sur Groover, c'est Arsenal. Donc en ce moment, on n'est pas trop en forme. Mais enfin, n'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur le site, hein, groover.fr. C'est, voilà, on apprend aussi deux, trois petites choses, notamment que oui, Arsenal a recruté. Voilà. 5 joueurs d'un coup. Incroyable. Je pense que quelqu'un a capturé Wenger. Et
il recrute pas encore autant qu'ils prennent des buts, mais ça aurait tardé.
Pas encore, je pense que ça va pas tarder. Là, ça aurait quand même été fort. Mais bon, on attend le prochain match de championnat. On devrait pouvoir voir un petit peu les nouvelles recrues, hein, avec impatience. Et en tous les cas, on espère que l'équipe de France va rehausser le niveau dans les prochains matchs et nous sortir une qualification qui est plutôt bien partie pour l'Euro, donc normalement ça devrait bien se passer. Voilà, messieurs, merci encore, bonne soirée à vous. C'était le 16e podcast Panenka et on vous dit à très bientôt.
Ciao.
Salut.
Salut. Au revoir.